RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc j'agis consacrée ce matin aux violences à l'école en cette journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école. On va s'intéresser plus particulièrement jusqu'à 11h à la médiation, un outil qui est utilisé dans certains établissements apprentis d'Auteuil et qui, vous allez l'entendre, porte ses fruits. Vous êtes les bienvenus toujours avec vos témoignages pendant l'émission. Si vous avez vécu une situation de harcèlement quand vous étiez à l'école, une situation de violence, comment avez-vous été accompagné? Comment avez-vous été pris en charge? Est-ce qu'il était simple pour vous de vous confier et d'en parler d'ailleurs aux enseignants, aux éducateurs qui vous accompagnaient? Et puis si vous connaissez des initiatives, des actions proches de chez vous qui permettent de sensibiliser, accompagner, former et agir, venez les partager avec nous en direct dans cette émission. Venez nous parler également de la médiation que vous connaissez certainement. 04 72 38 20 23 pour venir à l'antenne. Vous laissez vos messages par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et comme chaque jeudi dans Je pense donc j'agis, on terminera par Jeudi Photo. C'est un autre regard sur le monde pour saisir les défis auxquels sont confrontées les populations à travers la planète. Stéphanie Gallet nous rejoindra en toute fin d'émission et elle décryptera pour nous une photo choisie par le CCF des Terres Solidaires. Pour nous accompagner jusqu'à 11h, on a le plaisir d'accueillir trois invités. Bonjour Émilie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Je pense donc j'agis et merci aux équipes de Radio Présence à Toulouse qui vous accueillent ce matin en studio. Vous êtes éducatrice dans un lycée apprenti d'Auteuil du sud-ouest de la France. Bonjour Laetitia Richer.
Bonjour.
Bienvenue sur RCF. Vous êtes ancienne élève d'un lycée professionnel apprenti d'Auteuil qui se trouve dans le Morbihan à Prisiac. C'est le lycée Saint-Michel. Vous allez pouvoir témoigner dans un instant des effets de la médiation et sur vous et sur les élèves. Avec nous également, Johan Queno, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes le directeur adjoint de ce lycée professionnel Saint-Michel, donc c'est à Prisiac, hein, dans le Morbihan. J'aimerais, Johan, commencer par citer ce baromètre apprenti d'Auteuil, une enquête sur les violences à l'école réalisée par Opinionway pour apprenti d'Auteuil, où 74% des jeunes qui ont été sondés estiment que l'école est un lieu où il existe des violences. Vous, en tant que directeur d'un établissement, qu'est-ce que ça vous évoque, ce chiffre, mais même au-delà de ça, ce baromètre et le fait que les violences, on en trouve beaucoup à l'école?
Oui, effectivement. Je ne pense pas que la violence ait augmenté ou diminué dans les établissements scolaires. Je pense simplement qu'elle a changé. Il y a quelques années, c'était beaucoup plus physique. Aujourd'hui, la violence est plus insidieuse. Elle se passe notamment via les réseaux sociaux énormément. On fait face aussi à des violences sexistes. Le problème, c'est que tout ça, en fait, se règle souvent à l'intérieur des établissements. Ça part de dehors et ça vient se régler à l'intérieur. Et donc, pour éviter ça, effectivement, Apprenti d'Auteuil, depuis pas mal d'années, met en place un certain nombre de dispositifs qui permettent de réguler et de faire comprendre que, finalement, la violence, elle peut aussi se prévenir en apprenant, en se formant à la bienveillance, à la tolérance, à l'écoute et à l'autre.
Là aussi, en tant que directeur, est-ce que, sans nous parler encore des solutions, on y vient bien sûr ensemble, Johan, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion, vous, d'observer des situations de violence, de harcèlement à l'école, dans votre établissement?
Oui, bien sûr. Oui, on a eu l'occasion, et c'est un exemple qui reprend ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire d'une difficulté entre deux élèves qui se règle sur des groupes WhatsApp avec des prises à partie des autres membres de la classe, et ce qui fait que derrière, ça va rejaillir sur la relation au sein de la classe, et ça va venir finalement compliquer le travail aussi des enseignants, puisque les élèves sont plus, vont plus regarder ce qui se passe autour de cette situation que ce que va essayer de leur transmettre l'enseignant. Donc du coup, si on régule pas cette situation-là, déjà pour les protagonistes, ça peut finir jusqu'à des problématiques de justice, mais aussi avoir un impact sur les apprentissages.
Laetitia Richer, vous étiez élève dans ce lycée Saint-Michel à Prisiac. Je ne vais pas vous demander si votre directeur était sympa avec vous, mais vous, est-ce que vous avez été concernée justement par une situation de violence, de harcèlement, à titre personnel ou alors avec vos camarades, ce que vous avez pu observer peut-être ?
Oui, après ce que j'ai pu observer, oui, il y en a eu toujours. Après, pour ma part, non, j'ai pas été affectée par moi-même, mais c'est vrai que oui, il y a toujours de la violence partout, que ça soit violence ou physique ou psychologique. Oui, il y en a toujours. J'ai pu observer, oui, tout à fait.
Alors, on va mettre en avant dans cette émission notamment la médiation, enfin, système de médiation, comédiation, Johan Queneau. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Parce que autant la médiation, c'est quelque chose qui s'est énormément développé dans beaucoup d'établissements en France. Médiation, comédiation, qu'est-ce que c'est ?
Bien, en fait, Apprenti d'Auteuil a fait le choix lors des recherches en fait sur comment prévenir justement les exclusions et la violence, de s'intéresser à la médiation et à la comédiation. La comédiation, en fait, c'est que vous allez avoir un binôme de médiateurs qui va être formé par un adulte de l'institution et un jeune. Et en fait, ces deux médiateurs vont être sur le même pied d'égalité, puisque médiateurs formés tous les deux, et vont apporter un éclairage différent, notamment lorsque vous avez des médiations qui se jouent entre l'adulte et le jeune. La présence du jeune co-médiateur, elle va, comme le disait Pascal Lemaire-Toquette tout à l'heure, amener un équilibre dans la rencontre, et le fait d'avoir un médié jeune et un médié adulte, eh bien le jeune va se dire qu'en face de lui, il n'a pas que des adultes, et l'équilibre est rétabli, ne serait-ce que grâce à la présence du jeune co-médiateur.
Donc médiation, comédiation. Émilie, c'est quelque chose que, en tant qu'éducatrice, vous maîtrisez et que vous appliquez également.
Oui, tout à fait. C'est ce qu'on applique également et qu'on essaye de mettre en place chaque jour. C'est surtout un travail, moi je dirais vraiment, je rejoins de prévention. On travaille énormément sur la prévention pour essayer d'enrayer et d'éviter le phénomène de harcèlement. Parce que harcèlement, on sait que c'est le mot qui est très fort. On a le harcelé, le harceleur, deux élèves qui se retrouvent dans une situation qui est forcément très compliquée pour eux. Et une fois qu'on est rentré dans cette case, il y a des conséquences pour le harcelé et pour le harceleur. Donc ça en est très difficile pour eux pour s'en sortir, parce que n'oublions pas que ce sont des élèves, donc des jeunes en cours de construction, donc d'élèves en cours d'apprentissage. La cour de l'école, pour eux, c'est leur micro-société. Donc en fait, de travailler sur la prévention et donc sur le début en fait, le tout début, c'est-à-dire les brimades, arriver à identifier les brimades pour faire en sorte que ça s'enraye rapidement, ça c'est quelque chose que nous essayons de faire au quotidien pour justement essayer de responsabiliser les élèves, les aider à grandir et à les mener vers plus de responsabilités et donc enrayer ce phénomène de harcèlement pour pas qu'on en arrive à des situations où la sanction ou alors la justice en devienne nécessaire.
Vous avez le sentiment, Émilie, que dans l'établissement où vous êtes actuellement éducatrice, il y a eu une augmentation des cas de violence depuis quelques années, ou alors c'est quelque chose qui est relativement stable ?
Je rejoins tout à fait ce qui était dit tout à l'heure. C'est pas forcément une violence qui augmente, mais c'est une violence qui est différente. On a une société qui évolue sans cesse, des jeunes, comme était dit tout à l'heure, qui évoluent bien plus vite que nous, et où les évolutions se font des fois malgré nous avec les réseaux sociaux, et on n'a pas le temps de voir la montée des choses. Donc en fait, effectivement, la violence, elle change pas par le fait qu'elle est plus ou moins violente, c'est par le fait qu'elle arrive de façon que parfois on ne voit pas nous-mêmes. Les réseaux sociaux, ils sont pour beaucoup, puisque c'est des choses que nous ne maîtrisons pas, qui sont personnelles. Donc des choses que nous ne pouvons pas voir au premier abord et qui font venir dans l'école des soucis que nous aurions pu ne pas repérer avant.
Raphaël nous attend au 04 72 38 20 23. Bonjour Raphaël.
Oui, bonjour.
Vous êtes garé, merci de prendre ce temps sur le bord de la route. On vous écoute.
Alors oui, j'étais sur la route pour aller au travail, mais j'ai écouté et vous parliez de la fondation Orphelin d'Auteuil.
Apprenti d'Auteuil, apprenti d'Auteuil. Ça a changé.
Oui, à l'époque, mais maintenant j'ai plus de 30 ans, mais j'ai fait ce parcours scolaire, j'ai été en échec scolaire. toute ma jeunesse, et grâce au parcours, entre guillemets, un peu décalé de l'éducation nationale, car on n'était pas trop accompagné par l'éducation nationale, mais on nous a proposé un parcours un peu bis pour nous. Et effectivement, j'ai fait de la SECPA, j'ai fait les apprentis orphelins d'Auteuil, et donc du coup, j'ai fait tout un parcours avec eux, qui était différent, avec une autre approche qui nous a permis de, à nous, en échec scolaire ou placés en famille d'accueil, comme mes camarades, et on a pu avoir quelque chose de différent dans l'apprentissage que moi j'ai vu, avec des éducateurs spécialisés sur les temps de vie et sur un accompagnement personnalisé, entre guillemets, avec une attention toute particulière à ces jeunes. Et donc du coup, avec des classes beaucoup plus réduites, c'est-à-dire 10 à 12 élèves par classe, oui, avec des cours qui sont beaucoup moins longs que 3 heures de mathématiques ou 3 heures d'une autre matière, où en fait, il y a quand même des cours qui sont plus courts, entre guillemets, avec des intervenants qui viennent régulièrement, et un accompagnement plus spécialisé, plus proche de l'élève. Et effectivement, ce vivre en société, quand nous, on était tous des garçons internes, donc ça allait donc du collège au lycée, avec un accompagnement avec les éducateurs spécialisés, où il y avait donc 3 accompagnateurs, des EDUXP, pour une quinzaine d'élèves. Et sur les temps de vie, tous internes, on a su vivre en société, vivre ensemble, oui, grâce à un accompagnement qui a été fait, que en fait, les élèves en fait s'entraident entre eux. Il y a le savoir-vivre avec les différences qu'on a, parce qu'on était tous différents, avec des parcours différents de vie. On a tous vécu des choses différentes, qui sont plus ou moins dures dans une vie d'enfant. Et dans l'accompagnement et dans l'éducation aussi, on était, pour la construction même de cet enfant, pour qu'il soit un jeune adulte, qu'il puisse entreprendre et trouver sa place dans une société.
Oui, pour vous,
les éducateurs étaient vraiment là pour nous aider.
Le cadre était idéal pour vous, Raphaël.
Idéal, mais les apprentis orphelins d'Auteuil, on nous a donné un savoir-faire, savoir compter, écrire, lire, aller jusqu'à avoir des diplômes et aller même en études supérieures s'il fallait. Mais on nous a donné un métier dans les mains.
Merci.
On nous a fait faire de la menuiserie, on nous a fait faire de l'imprimerie, de la boulangerie, de la pâtisserie. J'ai vu des élèves devenir chef d'entreprise, et moi-même, alors d'aujourd'hui dans le bâtiment. Mais on nous donne des capacités et des possibilités dans la vie qu'on n'aurait pas dit dans l'éducation nationale, entre guillemets.
Qu'est-ce que vous êtes bavard, Raphaël. On va vous laisser reprendre la route, mais merci beaucoup, c'est très intéressant. Et c'est propre aussi, Johan Queneau, à la spécificité de l'enseignement d'apprentis d'Auteuil et même de certains établissements où les éducateurs ont un rôle primordial dans l'éducation des jeunes.
Bien sûr. Les éducateurs, en fait, vont travailler sur la question surtout des savoir-être chez les jeunes. Et en fait, comme le disait Monsieur Casanova tout à l'heure, la question de la formation, elle est importante. C'est-à-dire que pour travailler sur le savoir-être, s'intéresser, parce que on parle de médiation aujourd'hui, mais se former à la médiation, c'est aussi développer des compétences professionnelles, notamment celles de l'écoute. On parle un éducateur, son travail, il est aussi basé énormément sur l'écoute, et on sait que écouter, c'est pas si simple que ça, parce que c'est bien d'écouter, mais il faut que la personne qu'on écoute se sente entendue. Et lorsqu'on travaille la posture, ce que j'appelle moi la posture de médiation, qui va bien au-delà qu'une simple rencontre de médiation, quand on est médiateur, on apprend des techniques de médiation qui vont nous permettre après de faire tiers entre le jeune et la problématique qu'il rencontre. C'est se poser et le faire réfléchir sur, et pas à la place d'eux. Voilà.
Émilie, le rôle, alors c'est peut-être pas le terme idéal, mais je vais dire le rôle quand même, mais je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire. Le rôle harceleur, harcelé, pourquoi c'est important de même s'il y a un vrai conflit, il peut y avoir une situation de violence, de prendre en compte les témoignages de l'un et de l'autre dans la médiation?
Oui, effectivement, prendre les témoignages de l'un et de l'autre est extrêmement important, parce que un élève qui se sent en difficulté, qui est harcelé, on travaille directement sur la confiance en soi. Mmh. Donc c'est un élève qui perd confiance, où la prise de parole pour lui est difficile, donc déjà de s'exprimer, c'est compliqué. Donc l'écouter, c'est extrêmement important, et qu'il se sente entendu d'autant plus pour qu'il se sente reconnu et qu'il puisse avancer et essayer de faire en sorte que cette situation dans laquelle il se retrouve ne soit pas un enfermement total pour lui. Mais c'est également important d'écouter, de prendre en compte, je dirais plutôt le... J'aime pas trop le mot harceleur, effectivement, comme vous disiez, vu qu'on essaye de travailler aux prémices, mais les élèves qui pourraient le devenir, en tout cas, qui sont au centre des brimades, parce que ce sont des élèves, comme on le disait, qui sont en construction, donc qui font des erreurs, et qui parfois, dans le centre du groupe, l'influence peut être extrêmement prenante, et on se retrouve dans une spirale où on est un petit peu perdu. On se retrouve dans cette case du harceleur, où en fait on est dedans et mince, on est rentré dans son rôle, il faut qu'on le joue jusqu'au bout. Mmh. Et le fait de prendre en considération le jeune et de l'emmener, d'essayer de l'emmener à réparer sa faute avant que celle-ci n'aille trop loin et qu'elle tombe entre les mains soit de la sanction, soit de la justice, c'est aussi emmener ce jeune à éviter de rentrer dans cette case et cet enchaînement de harceleurs, parce qu'on sait que le terme de harceleur, ça rentre également dans la scolarité, le mauvais élève et compagnie, pour faire en sorte que cet élève répare, qu'il se sente aussi capable d'avancer et qu'il comprenne en fait ce qu'il a fait pour qu'il puisse ne pas le reproduire.
J'ai utilisé ce terme pour être un peu plus parlant pour les auditeurs, mais vous avez très bien expliqué justement la vraie différence avec ce que vous avez dit était très clair. Laetitia Richer, est-ce que vous avez peut-être un exemple de conflit qui a pu être résolu grâce à cette méthode d'apprenti d'auteuil, médiation, comédiation?
Oui, tout à fait. Donc, j'ai pu être du côté un peu médiateur avec deux personnes, deux lycéens en tout cas, qui s'étaient pris la tête par rapport à un vol et puis derrière ce qui avait engendré du coup de la violence physique entre eux. Tout à fait. J'ai pu faire une comédiation donc du coup avec un adulte, comme disait Johan tout à l'heure. Après la médiation se passe vraiment sur l'accord de chacun, c'est-à-dire que en fait il y a eu un conflit, les personnes sont toujours en conflit, ne se parlent pas, etc. Du coup on en vient à leur proposer la médiation. Il faut que ça soit bien évidemment un accord des deux. Une fois que c'est un accord des deux, on prend un lieu neutre on les accueille, ces deux médiés, ils s'assoient en face, etc. On leur rappelle bien évidemment les règles aussi de la médiation, donc la confidentialité, c'est-à-dire que tout ce qui est dit reste entre nous, entre les médiés et les médiateurs. Il y a la bienveillance, le respect de l'autre, et chacun a droit à faire un échange égal, c'est-à-dire que chacun doit respecter le temps de parole de chacun et ce qu'il a à dire. Dans un deuxième temps, du coup, il y a une écoute des médiés. Où en fait le médiateur va avoir vraiment une posture d'écoute, comme disait Johan, une écoute active qui est extrêmement importante, parce que c'est aussi une écoute des sentiments de chacun, de l'histoire de chacun, du ressenti. Pour le médié, du coup, va développer chacun à son tour son histoire, ses sentiments, comme je le disais. Et une fois que tout ça est posé, que les deux médiés ont pu s'entendre, il y a ce qu'on appelle la résolution de conflit, qui des fois ne se passe pas du tout comme ça, mais on peut par exemple aider, on laisse d'abord les médiés se proposer en fait eux-mêmes des idées de résolution. Si ça passe pas, le médiateur peut bien évidemment aider un petit peu à expliquer, est-ce que ça, vous pouvez pas discuter un peu entre vous, essayer de trouver des solutions pour résoudre le conflit. Et si le conflit ne se règle pas, en tout cas, on peut répéter la médiation en tout cas plusieurs fois.
Johan Queneau, par rapport à la posture d'écoute, la posture du médiateur, qui est le médiateur d'ailleurs? Est-ce que c'est forcément un encadrant de l'établissement ou ça peut être aussi un autre élève, tout simplement, qui a été désigné médiateur?
Alors en fait, qui peut être médiateur? Je vais vous dire tout le monde.
Tout le monde, oui.
C'est-à-dire que dans un établissement scolaire, qu'on soit éducateur, enseignant, personnel de jardin ou infirmière, on peut devenir un médiateur et c'est pareil pour les jeunes. L'essentiel, c'est d'être volontaire et d'avoir envie finalement de rendre un service pour la communauté éducative, alors un service qui comment dirais-je, va permettre aussi d'apaiser le climat de l'établissement, mais à partir du moment où on a envie de rendre ce service, il suffit juste de dire j'ai envie de donner de ma personne et de mon temps pour les autres et d'apprendre les valeurs qui sont transmises par la médiation, hein, la paix, la citoyenneté, le civisme, le respect de l'autre et la tolérance, et puis de rendre ce service qui est bénéfique pour tout le monde. Mmh. Parce que dans un établissement scolaire, je me rappelle d'un directeur qui disait quand les équipes vont bien, les jeunes vont bien. Ben, effectivement, on s'aperçoit que quand on arrive dans un établissement scolaire à permettre le dialogue pour tous, et un dialogue équitable, on travaille la question du climat scolaire, bien entendu. Donc il suffit juste d'avoir envie de rendre ce service, de se former et d'y aller.
Bonjour Marie-Thérèse.
Bonjour.
Désolé pour l'attente, on vous écoute au 04 72 38 20 23.
Ah bon, eh bien, donc ben, je prends la parole, j'ai 85 ans et je commence par dire que je suis très très intéressée par tout ce que vous venez de dire. Alors moi, c'est sur un point très qui pour moi est très profond et qui porte tellement de fruits, c'est cette fameuse non-violence oui. dont personne ne parle et puis ne sait trop ce que c'est. Mais moi, par bonheur, j'ai suivi au Larzac d'abord un séjour et puis une session de non-violence extraordinaire et de fait, ça a tout changé. À partir du moment où on expérimente ça, on n'est plus dans le réactionnel. Et découvrir en profondeur que chacun, sans exception, au fond de lui-même, a cette force intérieure, mais où on n'a pas accès. Et là, puis il faut voir le monde qu'on vit aujourd'hui. Et alors, donc, au travail, je peux vous dire que on avait programmé ma dépression parce que j'étais déléguée de personnel suite à quelqu'un qui avait été complètement cassé. Et ben j'ai rencontré, j'ai 85 ans, 25 ans après, une inspectrice qui me regardait pas, puisqu'elle prête la direction, et qui me dit « Mais c'est extraordinaire ce que vous avez apporté, j'en suis restée médusée. » Et puis, et alors, ce que je veux dire aussi, c'est cette autre façon, justement, de s'exprimer. Et dans mon quartier, je peux vous dire que là où il y a eu des jeunes, où il y avait de la violence, oui. beaucoup, eh bien, je vais vous donner un exemple. Je rencontre deux qui viennent vers moi parce qu'ils me connaissaient. Mm-hmm. Et puis alors, oh là là, alors vous auriez vu l'intensité, des yeux violents les deux, on est ennemis. Alors, donc, moi, j'ai pas eu un regard de reproche, rien du tout, mais je les ai regardés, ah bon? Et alors, qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire ? Rien. Bon, et alors je continue à les regarder comme ça. Puis alors, au bout d'un moment, bon, on peut peut-être essayer. Et alors, donc, ils se sont regardés. Et puis à un moment donné, il y en a un qui dit, bon allez, on fait la paix. Mmh. Ils ont levé la main tous les deux et sont repartis en belle équipe.
Mmh. Mais comme quoi, Marie-Thérèse, ça fonctionne et ça porte ses fruits. Merci beaucoup d'être venue à l'antenne pour apporter ce témoignage de terrain. Je vais compléter avec un message de Jean-François qui nous dit, bien sûr, la violence est à bannir. Nous avons tous à nous éduquer et surtout veiller à faire prendre conscience à nos enfants de ces dangers. Nous devrions tous connaître les bienfaits de la CNV, la communication non violente, et la mettre dans les programmes de l'école dès le plus jeune âge. Des témoignages d'éducateurs qui l'ont mise en place ont vu des remarquables résultats et renouvellent cette sensibilisation très régulièrement. Les enfants témoignent de leur reconnaissance pour la découverte de cette nouvelle voie. Johan Queneau, la médiation, c'est une forme de non-violence pour vous ?
Oui, ah oui, complètement. On est complètement dedans. C'est-à-dire que la médiation, elle va permettre une chose. Déjà, c'est de se dire que le conflit, il fait partie de la vie. Je connais personne qui n'a jamais eu à faire face à des conflits. Et en fait, la médiation, elle va permettre de se rendre compte que le conflit, il n'est pas si grave que ça. C'est-à-dire que ce qui est grave, c'est la façon dont on le traite. Si on reste, comme le disait la dame qui vient de témoigner, en face à face et qu'on met pas de mots sur ces mots, effectivement, ça peut avoir un impact hyper négatif. Maintenant, quand on apprend à gérer ces conflits par la parole et par l'écoute, en étant bienveillant et empathique, eh bien, on fait un pas, on va dire, vers l'humanité et vers une société plus juste et plus bienveillante.
Vous confirmez, Émilie, j'imagine, qu'éducatrice, voilà, que cette...
Oui,
allez-y. Pardon, je vous coupe la parole.
C'est dans ce sens-là qu'on travaille chaque jour. Effectivement, c'est d'amener les jeunes à communiquer et à comprendre qu'effectivement, dans la communication, il y a des moments où on est d'accord et des moments où on n'est pas d'accord. Et c'est normal. Des personnes avec qui on a des affinités plus fortes et d'autres non, c'est normal aussi. Ça fait partie de notre nature. Mais tout en étant dans le respect de l'autre, sans en arriver à dire effectivement, on n'a pas d'atome crochu. Donc toi, il faut que tu sois isolé. C'est sans en arriver, voilà, à cet isolement de l'autre. Donc c'est travailler avec les jeunes au quotidien pour faire en sorte qu'ils puissent vivre ensemble, apprendre à être en communauté et à se respecter les uns des autres pour pouvoir faire en sorte que tout simplement chacun trouve sa place dans le groupe et qu'il s'y sente bien.
On reçoit beaucoup de témoignages depuis ce matin, notamment sur le rôle des adultes, des enseignants. Beaucoup dénoncent d'ailleurs ce non-rôle. Anne-Marie nous dit « Mes enfants ont été confrontés dès l'école maternelle à des réactions d'adultes inadaptées, manque de disponibilité des surveillants lors de récréation. Ils furent vite découragés car lorsqu'ils cherchaient de l'aide auprès d'eux, parce qu'ils étaient persécutés par l'inévitable, c'est pas beau de rapporter. » Alors que moi, je leur apprenais à ne pas faire justice soi-même. Johan Queneau, les enseignants sont formés du côté d'apprentis d'Auteuil. Les enseignants, les encadrants, les surveillants, les pions, hein, comme on les appelle, tout le monde est formé pour justement accueillir la parole de l'élève qui se sent harcelé, persécuté.
Alors, dans la formation, on va dire, initiale d'un enseignant ou d'un éducateur, bien entendu que la question de l'écoute, elle est importante. Maintenant, se former et pousser cette formation, effectivement, tout le monde ne l'est pas. Et c'est normal. Maintenant, celui qui le souhaite, et grâce notamment à ces formations autour de la médiation, il n'y a pas que ça, bien entendu, on a parlé de CNV tout à l'heure, c'est un autre outil. On peut aussi parler de messages clairs, qui sont des méthodologies un peu identiques. Mais se former et avoir cette compétence supplémentaire, moi je dis souvent, c'est apporter dans sa caisse à outils professionnelle un outil supplémentaire qu'on peut sortir en cas de besoin. Et avoir la... J'insiste sur ce mot, mais avoir la juste écoute, la bonne écoute, parce que on s'aperçoit aussi, lorsqu'on s'intéresse à la notion d'écoute, que lorsque on n'adopte pas la bonne posture d'écoute, on peut faire dégénérer la situation. Vous voyez, moi, je parle vraiment de l'écoute du médiateur, de l'écoute empathique. Donc, on a des bases de la part de, enfin, qu'on a appris par notre éducation, ensuite par nos formations initiales ou professionnelles, mais effectivement, la question de la médiation permet d'approfondir cette notion d'écoute qui est si importante dans les métiers qu'on fait, puisque on travaille avec de l'humain. Donc, l'écoute, elle est forcément présente tout le temps.
Laetitia Richer, vous aviez le sentiment d'être écoutée
quand
vous étiez dans ce lycée Saint-Michel à Prisillac.
Oui, bah totalement. Pour ma part, je suis arrivée dans le lycée, j'étais voilà encore une petite fille et j'en suis sortie en étant beaucoup plus grandie justement par rapport aux éducateurs qui ont su m'écouter, m'accompagner aussi et dû à la médiation et puis même à part de la médiation voilà les éducateurs en sont pour beaucoup. Oui.
Allez, 10h30 sur RCF, on vous attend au 04 72 38 20 23 et on vous accueille avec plaisir après cette chanson d'Angèle qui dénonce l'utilisation des smartphones.
Tout ça dans un objet, encore faut-il qu'il soit bien chargé. Je dois l'éteindre pour m'en éloigner. Si je l'oublie, je passerai une belle journée. Sans la haine, le stress, le faux mot, les dangers et tout ce qui me fait me sentir comme une merde ou presque. C'est fou de se dire qu'il y a tout ça dans un objet. J'écoute les notes en fois deux, mais quand j'en fais, ça dure 10 minutes. J'ai pas tant de choses à dire, je crois que je veux juste qu'on m'écoute. Je me demande comment faisaient les gens avant pour se donner rendez-vous. Moi j'ai besoin de checker 1000 fois mon écran pour être sûr de mon coup. Tout ça dans un objet, tout ça dans un objet, amour et les dangers, dans un objet, tout ça dans un objet, tout ça dans un objet, je peux pas m'en empêcher, dans un objet. Tous les soirs t'évites le vide, tu regardes 5 minutes, 2 heures plus tard tes mains transpirent et t'as les yeux qui brûlent. T'as rencontré un tas d'amis que t'as jamais vu pour de vrai, mais alors tout. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est vrai? T'écoutes les notes en fois deux, mais quand on fait, ça dure 10 minutes. T'as pas tant de choses à dire, je crois que tu veux juste qu'on t'écoute. Tu te demandes comment faisaient les gens avant pour organiser un date. Toi, tu zoomes des heures sans rien faire derrière l'écran, et puis tu te sens bête. Tout ça dans un objet. Tout ça dans un objet. Je culpabilise quand je regarde la vie des autres. Et si on détruisait ce qui tient dans nos mains, nous t'avions activé au moins jusqu'à demain. Tout ça dans un objet. Tout ça dans un objet. Amour, haine et danger, dans un objet. Tout ça dans un objet. Tout ça dans un objet. On peut pas s'en empêcher, dans un objet.
Amour et ni danger, c'était Angèle sur RCF.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Avec nos trois invités, Émilie, vous êtes éducatrice dans un lycée apprenti d'Auteuil du sud-ouest de la France. Laetitia Richer, vous êtes ancienne élève du lycée Saint-Michel à Prisiac, dont le directeur adjoint est également avec nous. Johan Quénos, lycée Saint-Michel, il se trouve dans le Morbihan. J'aimerais vous faire réagir, Johan, sur cette chanson d'Angèle qui parle notamment de l'utilisation des smartphones, des réseaux sociaux. Ça aussi, c'est à prendre en compte hein, dans ces sujets. Du harcèlement à l'école, des violences à l'école, puisque c'est dit d'ailleurs dans le baromètre apprenti d'Auteuil sur les violences à l'école que l'utilisation des réseaux sociaux peut vraiment favoriser ces violences en milieu scolaire.
Oui, bah oui, complètement. C'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, la violence, elle change. Et aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, notamment sur les textos, les MMS, etc., sans avoir forcément, comment dirais-je, sans que le jeune sache vraiment l'impact et le danger qu'il y a derrière tout ça. Je me rappelle du témoignage d'un jeune, justement, sur une sensibilisation qu'on avait fait autour de l'utilisation des smartphones et du harcèlement, qui suite à cette sensibilisation avait pu nous dire « Eh bien, merci pour ça, parce que je me rends compte que j'ai pu être un harceleur sans le savoir ». Donc, ils n'ont pas toujours la notion, finalement, de gravité de ce qui peut se passer sur les réseaux sociaux et de l'impact que ça a derrière. Comme je le disais tout à l'heure, dans les établissements scolaires aujourd'hui, on récupère parfois des situations qui se passent à l'extérieur et notamment sur ces réseaux sociaux-là. Donc, la question, c'est de savoir comment nous, derrière, on la traite. Parce qu'on pourrait dire, bah écoutez, ça nous regarde pas, ça se passe à l'extérieur. Sauf qu'il y a un impact, comme je le disais, parfois sur l'ambiance de classe et la relation de classe. Oui. Et là, la médiation peut intervenir dans ce qu'on appelle les médiations de groupe, parce que la médiation peut avoir lieu entre deux personnes, mais elle peut également se faire sur une classe entière. C'est la même méthodologie, enfin, la même philosophie, pardon. Il y a juste la méthodo qui change un tout petit peu, mais voilà. Mais ça a un impact hyper positif dans nos établissements.
83% des jeunes sondés déclarent que les réseaux sociaux contribuent à renforcer la violence à l'école. 56% des jeunes disent avoir vu circuler des photos vidéos humiliant des jeunes dans leur établissement. Et 28% admettent ne pas avoir dénoncé du cyberharcèlement dont ils avaient été témoins. Ça, ce sont des chiffres du baromètre Opinionway apprenti d'Auteuil sur les violences à l'école. Émilie, ça aussi, vous le constatez de votre côté en tant qu'éducatrice, l'impact l'impact du smartphone, hein, je vais généraliser, une augmentation peut-être des cas de harcèlement liés au téléphone.
Oui, tout à fait, parce que en fait, le téléphone pour eux, c'est ça devient addictif. En fait, c'est quelque chose d'addictif pour les jeunes aujourd'hui. On le voit de plus en plus. Ne serait-ce qu'en prenant le métro ou le tramway ou le bus, on voit que tout le monde est sur son téléphone. C'est une bulle dans laquelle on s'enferme. Et pour nos jeunes, souvent, ils ont la sensation que ce qui se passe sur les réseaux sociaux ou ce qu'ils font sur leur téléphone, bien, c'est comme s'ils regardaient un film. Ce n'est pas la vraie vie. Donc, en fait, ils n'ont pas conscience de la gravité de ce qu'ils peuvent envoyer ou de ce qu'ils peuvent faire. Comme on dit, l'expression qui se dit, c'est caché derrière son écran. Mmh. Donc, on a l'impression qu'on est un petit peu anonyme, donc intouchable. Et ça, c'est très difficile de leur faire comprendre. Et on le voit notamment sur le collège. Sur les internats, un petit exemple, sur les internats, sur le début d'année, c'est très dur pour les jeunes collégiens, puisque le téléphone portable étant interdit au collège, ils ne l'ont pas. Donc pour eux, c'est leur grande difficulté sur l'internat, ils se demandent comment ils vont survivre en fait, sans leur téléphone toute la semaine. Et petit à petit, ben, au fil des mois, même dès la fin du premier mois, ben, on se rend compte que ces jeunes se détachent du téléphone pour pouvoir créer de nouveaux liens, en fait. Recréer de nouveaux liens, et ils se rendent compte que communiquer, ça a une vraie valeur. Parce qu'on voit très bien des jeunes qui peuvent très bien, d'un établissement, je sais pas moi, d'un côté à l'autre de la cour, simplement s'envoyer un SMS pour discuter. Alors qu'il suffit de traverser la cour pour se parler. Et ça, on le voit beaucoup chez les jeunes, cette addiction qui progressivement diminue avec l'arrêt du téléphone, simplement. Ils sont dans un autre monde.
Mmh. Ouais. Que faut-il faire ? Faut les former, faut les sensibiliser, toujours et encore plus, d'après vous, Émilie ?
Oui, tout à fait. On travaille énormément aussi sur la sensibilisation aux écrans. Ça en fait partie, sensibilisation aux écrans. Effectivement, ça permet à des jeunes de prendre parfois conscience de certaines choses et de se dire « Ah, mais effectivement, en fait, je me rends pas compte, mais je le fais. Comme il était dit tout à l'heure, voilà, je me suis pas rendu compte, mais j'ai été harceleur parce qu'effectivement, j'ai fait cette chose-là. Mmh. » C'est la prise de conscience. Travailler sur la prise de conscience par la prévention, on résout énormément de problèmes avec cela, puisque nos élèves, ils sont là, ils sont présents, ils entendent. Donc, en travaillant sur la prévention avec de la bienveillance et de l'accompagnement, on travaille également sur la mise en confiance. Ils ont confiance en nous. La parole de l'adulte, elle est extrêmement importante. Donc, avec ce lien de confiance et de prévention, on arrive à résoudre des problèmes, comme nous disions, dès le départ, c'est-à-dire dès la primade, sans en arriver parfois jusqu'au harcèlement, puisque les jeunes prennent conscience et réparent par eux-mêmes.
C'est ce que nous dit Didier. Quand je vois des enfants de moins de 10 ans avec un smartphone, je me dis que les parents ont aussi leur responsabilité. D'une manière générale, les écrans sont néfastes pour le développement apaisé de l'enfant avec toutes ces vidéos violentes que l'on y trouve. Mais ça, c'est un débat qu'on a pu déjà mener maintes et maintes fois dans Je pense donc j'agis. Bonjour Marie.
Oui, allô, bonjour.
Bienvenue sur RCF, on vous écoute.
Voilà, je suis fiancée éducatrice
oui.
de la première promotion de l'école de Lille.
Très bien.
Qui était dirigée un peu par l'abbé Barthélémy, Marie-Hélène Mathieu, qui était présidente à ce moment-là. Donc voilà, maintenant j'approche mes 100 ans. Donc quand j'entends parler des difficultés auprès des enfants, je me dis aussi, je viens d'entendre parler de la présence maintenant. C'est très important, et de l'autorité, et de entre des enfin la différence entre l'autorité et l'autoritarisme.
Oui.
Alors je pense que l'autoritarisme, ben c'est néfaste, quoi. Il faut arriver à découvrir chaque enfant avec sa difficulté, et repartir de lui. Et je pense que la présence de l'éducateur est quand même très importante. Je viens d'entendre maintenant des choses réconfortantes, oui, sur la présence.
Et on trouve des solutions.
Oui. Ah oui, j'écoute depuis ce matin, mais étant donné que je suis ancienne éducatrice, alors vous pouvez me poser des questions, parce que là, j'ai presque 100 ans. Et...
Vous allez avoir 100 ans quand
Au mois de mars.
Ah, au mois de mars, bah dis donc.
J'ai exercé très très longtemps dans tous les milieux, y compris, je vous disais tout à l'heure, avec les tribunaux.
Alors, je vous pose une question, après je vous libère, hein, Marie. Puisqu'on parle de la violence à l'école, est-ce que vous avez connu une situation de violence quand vous étiez éducatrice et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez réagi? Parce qu'on peut facilement imaginer que le contexte n'est pas le même. On a parlé des réseaux sociaux, ça n'existait pas à votre époque, si je peux utiliser cette expression, pardonnez-moi Marie.
Eh bien oui, parce qu'on avait ce qu'on appelait avant des caractériels. On les appelait des caractériels, voyez-vous, par rapport aux autres, avec des troubles du caractère importants. Hein, cassant du carreau, etc., fuguant la nuit, quand j'ai accueilli des filles du foyer d'accueil. Bon, mais je ne disais rien. Je ne disais rien avant d'avoir toutes les données, quoi. Et ensuite, j'essayais de proposer à l'enfant des activités qui correspondaient à ces troubles.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Marie, pour votre appel au 04 72 38 20 23 et on note vos 100 ans en mars. Johan Queneau, vous étiez d'accord avec ce que nous a dit Marie, notamment sur la différence entre autorité et autoritarisme.
Oui. En fait, effectivement, faire autorité, c'est pas du tout être autoritaire. Et je rencontre parfois le cas lorsque j'ai des médiations entre un jeune, une demande de médiation entre un jeune, et notamment lorsque ça vient du jeune, envers un adulte, lors de la rencontre de prémédiation, on va lui expliquer le processus et la philosophie de cette rencontre, la crainte justement de perdre de son autorité sur le jeune. Et moi, ma réponse, elle est toute faite, c'est dire que c'est tout à fait l'inverse. Quand on est capable de se mettre à la juste distance et à la même hauteur que le jeune, de lui faire part de ce qu'on ressent, de notre vision de la situation, et de lui permettre de faire la même chose, le jeune, il ne nous voit plus du tout de la même façon. Il se dit, voilà, j'ai en face de moi un adulte qui m'encadre, qui m'enseigne, et je peux quand même exprimer avec lui mes difficultés. Et un exemple de médiation qui avait été vécu d'un élève exclu par un enseignant parce qu'à plusieurs reprises, il n'avait pas fait le devoir qu'il devait faire. Et le fait, finalement, de permettre cette rencontre parce que l'enseignant ne voulait plus recevoir l'élève tant qu'il n'avait pas présenté ses excuses, le fait de permettre cette rencontre et de lui faire comprendre qu'il allait y gagner en fait en et qu'il ferait autorité après cette rencontre, effectivement, il m'a dit qu'il était tout à fait satisfait d'avoir pu vivre ce moment et que son regard sur le jeune avait changé et que le regard du jeune sur l'adulte avait changé également parce qu'ils avaient pu à un moment donné être à la même place et à la même hauteur.
Une auditrice, Eve, nous dit « L'autoritarisme, pour moi, est une réaction d'impuissance de l'adulte face à l'enfant. » Vous confirmez? Vous êtes d'accord avec ça complètement?
Bah oui, parce qu'on va chercher quelque part, c'est une situation qui va quelque part un peu nous dépasser. On va chercher à se protéger avec les armes qu'on a et parfois eh bien on prend justement cette hauteur mais quand je dis hauteur, c'est-à-dire cette hauteur beaucoup plus liée à à la discipline et à l'ordre et on va essayer de faire preuve d'une forme de violence d'ailleurs envers le jeune pour lui dire je suis l'adulte donc c'est moi qui ai forcément raison.
On a reçu un témoignage très touchant dans le groupe Facebook, Je pense donc j'agis, que je vous invite à lire. Je vais pas lire dans son intégralité parce qu'il est long, mais Rosa nous dit « J'ai été harcelée à l'école depuis ma plus tendre enfance. J'ai 56 ans aujourd'hui, donc ça date pas d'hier. Ce harcèlement, je le subissais également à la maison. J'étais un bouc émissaire. À l'époque, personne ne disait rien. Les institutrices voyaient bien qu'il y avait un problème, mais ça s'arrêtait là. Du coup, j'avais peur d'aller à l'école. Je pleurais à chaque rentrée. » Ça s'est un petit peu atténué à l'âge de 10 ans lorsque ma mère s'est débarrassée de moi en me mettant en pension. Et ça rejoint aussi la notion d'internat qu'on avait tout à l'heure. À l'époque, personne ne disait rien. Et Rosa qui termine son témoignage en disant « Je pense que le harcèlement n'est pas plus important aujourd'hui qu'autrefois, mais qu'on en parle plus et c'est bien. » Voilà, moi je trouve ça très touchant d'entendre ça, Émilie.
Oui. Oui, complètement. C'est des choses très touchantes parce que c'est le cœur de notre métier et c'est des choses qu'on essaye d'éviter chaque jour. L'isolement des élèves, cette différence aussi entre autorité et autoritarisme, le fait que les élèves nous font confiance en fait. Pour eux, l'adulte de référence, c'est l'adulte qui les mène vers vers quelque chose de plus grand. Donc en fait, ils boivent nos paroles. Donc l'impact des mots que l'on peut avoir est extrêmement important. D'où le fait que l'importance de la formation est extrêmement nécessaire. Quand on parle à nos jeunes, il ne faut pas oublier qu'on parle à des jeunes. On ne parle pas à des adultes. Nous, on a un recul d'adultes. On a notre vécu à nous. Et effectivement, les brimades que eux reçoivent et que l'adulte peuvent considérer comme quelque chose de pas grave, quelque chose d'anodin, ben en fait pour eux c'est tout leur monde. Et c'est là la difficulté, c'est d'arriver à prendre en compte la difficulté du jeune en arrivant à cerner l'impact que ça a sur lui. Et effectivement, voilà, comme ce témoignage-là, où on apprend qu'effectivement, le suivi n'a pas été fait parce que, ben voilà, c'était des brimades, des petites brimades entre jeunes de la vision de l'adulte. Et ben effectivement, l'enfant ne le vit pas comme tel. Pour lui, c'est tout son monde, il se construit là-dedans, et ça en devient très, très compliqué. Ça en devient très, très compliqué d'en sortir parce qu'on se sent seul. Et quand on se sent seul, on ne parle pas. La seule façon de s'en sortir, c'est effectivement de pouvoir discuter, pour pouvoir trouver des solutions. Ouais, donc c'est ce travail du quotidien qui est extrêmement important. Le dialogue, la confiance, vraiment, et la bienveillance. Sans bienveillance, on n'arrive à rien de toute façon.
Et la médiation en est une bonne solution. D'ailleurs, on en parle ce matin, je vous le rappelle, avec Apprenti d'Auteuil. Laetitia Richer, vous n'êtes plus élève dans ce lycée Saint-Michel à Priziac. Par contre, cette méthode de médiation, comédiation, elle vous accompagne encore aujourd'hui dans la sphère professionnelle?
Oui, tout à fait. Je trouvais assez important d'en parler parce qu'effectivement, la médiation ne s'arrête pas juste au lycée. Pour ma part, en fait, sur mes entretiens d'embauche, par exemple, c'est quelque chose qui revient très fréquemment parce que dans mon CV, j'ai marqué que j'avais fait une formation de médiation au lycée. Et effectivement, ça revient. C'est quelque chose qui interroge beaucoup et qui est aussi, je pense, un argument, en fait, pour la suite d'une embauche, parce qu'effectivement, en fait, c'est un plus dans les entreprises, etc., d'avoir quelqu'un qui est formé à ça, même si c'est une petite formation de lycée, ça reste quand même une formation. Et voilà, bon, pour le moment, j'ai pas eu encore l'occasion de le mettre en place, mais en tout cas, c'est quelque chose, en tout cas, qui reste dans mes projets et de mettre en place même sur ma vie professionnelle aussi, avec des conflits entre collègues, ça serait le top.
Vous avez été médiatrice, vous, Laetitia, dans le passé?
Comédiatrice, oui.
Ah oui, vous nous rappelez la différence vraiment entre un médiateur et un comédiateur dans cette méthode d'apprenti d'Auteuil?
Alors le comédiateur, en fait, généralement c'est le jeune, parce que le médiateur reste quand même l'adulte avec vraiment tous les savoirs, et le comédiateur est vraiment là en plus, justement c'est le jeune, c'est celui qui va qui va aussi prendre la parole, qui va avoir le même rôle, si vous voulez, mais peut-être un peu plus, enfin moi en tout cas je l'ai perçu comme ça quand j'ai pu faire ma médiation. En tout cas, j'étais un peu plus dans le recul, j'ai laissé plus la place au médiateur parce que voilà, je suis comédiateur et que je suis encore en apprentissage de la médiation, des méthodes de médiation, etc. Voilà, là où est vraiment la différence, c'est sur l'apprentissage.
On accueille Rémi. Bonjour Rémi.
Bonjour.
Allez, on vous écoute, c'est à vous.
Ouais, moi j'ai pas pu écouter toute votre émission, peut-être que le cas a abordé ce problème-là, mais là on est à fond dans la forme, que je dirais, on n'est pas à fond dans le fond. Et je trouve que la violence, elle est partout dans notre société. Elle est aussi en moi, quoi. Et le premier travail à faire pour éviter pour permettre aux enfants d'être moins violents, c'est d'apaiser notre violence qui est en nous. Quand on utilise des formes, vous n'avez pas utilisé le mot, mais on a parlé presque d'éducation, de domestication, de coercition, de caméra, d'internat, tout ça, c'est des formes de violence pour moi. Et si on n'est pas conscient, nous, déjà, que d'appliquer ces méthodes-là, c'est de la violence, comment voulez-vous que les enfants s'apaisent? Donc pour moi, 71 ans, j'essaye de me soigner et d'être de moins en moins violent avec moi-même et avec mes enfants, mes petits-enfants, pour essayer de rayonner autre chose. Il y a 2000 ans, Jésus est venu nous aider à désarmer toutes ces formes de violence qui sont cachées en nous. Et aujourd'hui, on a utilisé, je trouve, beaucoup de vocabulaire qui font, pour moi, référence à la violence.
Merci beaucoup, Rémi, pour ce témoignage ce matin. Johan Queneau, Rémi nous dit on n'est plus vraiment dans la réaction, on s'enlise dans cette violence. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Alors, là où je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Rémi, c'est que effectivement la médiation, on travaille sur la forme, mais on travaille également sur le fond, parce que avant tout la médiation, c'est au-delà de la rencontre, c'est une posture de vie. Et lorsqu'on se forme à la médiation, on va déjà, et notamment avec les jeunes, on va commencer le travail qu'on fait sur la question de la confiance en soi, de la connaissance de soi et l'estime de soi. Et je pense que ces trois éléments, ce sont des facteurs de fond, puisqu'ils nous touchent nous-mêmes, et sur lesquels, qui vont nous permettre d'être moins violents avec nous-mêmes. Qui je suis? Et pour être bien avec les autres, il faut commencer par être bien avec soi-même. Donc au-delà de la technique de médiation, cette posture de médiation, elle se construit tout au long de sa vie. Voilà, moi j'ai commencé la médiation il y a une dizaine d'années, je suis très loin d'en avoir fait le tour, mais ce que j'ai constaté en tout cas, c'est que ça permet d'être mieux avec soi-même et donc d'être mieux avec les autres.
On arrive presque à la fin de cette émission, Émilie, Laetitia et Johan, et il y a une tradition dont je pense donc j'agis le jeudi notamment, c'est de regarder une photo, ou plutôt de décrypter une photo mais sans la voir. Écoutez bien. Et oui, on retrouve Stéphanie Gallet, notre chroniqueuse, autour d'une photo sélectionnée par le CCFD Terre Solidaire. C'est la séquence jeudi photo. Bonjour Stéphanie.
Rebonjour Melchior, bonjour à tous.
C'est vrai qu'on ne se quitte plus. Quelle histoire raconte notre photo aujourd'hui?
Ces maisons sont-elles sur pilotis? Où sommes-nous face à une inondation? Eh bien, c'est la question que je me suis posée en regardant cette photo. Nous sommes devant des maisons dont on ne voit que les toits de tuiles. Des toits qui occupent pratiquement toute la moitié haute de la photo. En bas, dans l'autre moitié, rien que de l'eau, ou presque. Entre les deux, une sorte de ponton où sont alignées des plantes en pot. Certaines sont fleuries et cela donne un air bucolique à l'ensemble. Sur la gauche de cette passerelle, qui traverse donc toute l'image de gauche à droite, une femme en jupe bleu clair et voilée de rose dont on ne devine que l'ovale du visage. Sa présence nous donne l'échelle de l'image. Pour entrer à l'intérieur de ces habitations, il va lui falloir se baisser, c'est une évidence. Sur le toit devant nous sont posées des bottes en caoutchouc, des balais, mais aussi des cartons et des paniers qui semblent nous indiquer que la situation n'est pas tout à fait normale.
Alors, inondation ou maison sur pilotis?
Bah, inondation, hein. De ces maisons, seul le deuxième étage est accessible. Et encore, tout cela ne tient qu'à un fil, hein. La mer monte et envahit tout. Et cette femme regarde consternée ce qu'il reste de son village.
Et son village, où est-ce qu'il est? Où sommes-nous, Stéphanie?
Eh bien, nous sommes en Indonésie, sur l'île de Java, dans le village de Tambapolo. Sur cette île, la plus peuplée d'Indonésie, champs et rizières disparaissent à vue d'œil. Dans certains villages, les maisons, les écoles, les commerces, les édifices religieux ne sont plus que des épaves englouties par l'eau et les mangroves. Les routes n'existent plus. C'est en bateau, puis les jambes dans l'eau, que Marion Poirot, la chargée de mission au CCF des Terres Solidaires, est allée à la rencontre des habitants qui sont restés dans leur village submergé. Alors certains sont restés par choix, d'autres par manque de moyens pour partir. Et avec son téléphone, elle a photographié ce désastre environnemental à peine croyable.
Et on imagine que c'est à cause du réchauffement climatique. C'est une photo de circonstance, hein, Stéphanie, alors que la COP27 se tient en Égypte actuellement.
Oui, c'est juste, hein, Melchior. Le dérèglement climatique accélère la montée des eaux. À cela s'ajoute l'affaissement des sols qui résulte du pompage excessif des nappes phréatiques et de l'urbanisation galopante promue par le gouvernement indonésien. À Jakarta, 40% des terres se situent sous le niveau de la mer. Et face à cette situation, le gouvernement prévoit de déménager la capitale à 2000 km de là. Une solution qui ne résout rien, mais surtout qui laisse des millions d'habitants livrés à eux-mêmes dans une mégalopole menacée d'être noyée.
Et que peut-on faire alors ?
Bah, Melchior, je vous renvoie à toutes les émissions que nous réalisons autour de la COP27 et de l'inertie des gouvernements. Sur place, cela semble dérisoire, mais il faut construire des pontons. Et puis il faut surtout former les habitants pour qu'ils se mobilisent pour exiger des projets d'infrastructures et d'urbanisme beaucoup plus durables.
Et pour découvrir cette photo signée Marion Poirot, rendez-vous sur rcf.fr. Et pour en savoir plus sur la situation de l'île de Java, direction le site du CCFD Terre Solidaire. Merci beaucoup Stéphanie Gallet. Johan Kenou, je me tourne vers vous, alors pas pour commenter la situation en Indonésie, plutôt pour vous demander si ce système de médiation, il existe ailleurs qu'en France. Est-ce que vous aussi, vous vous inspirez d'autres méthodes contre le harcèlement, contre les violences à l'école ?
Tout à fait. C'est l'origine d'ailleurs de la médiation à Apprenti d'Auteuil qui, en 98, sur la question notamment des exclusions, Apprenti d'Auteuil a cherché des réponses. Voilà, des méthodologies de travail, de prévention. Et en fait, dans les recherches qui ont été faites, on s'est inspiré de ce qui se faisait au Canada. Alors, ça s'appelait pas comme ça, mais la médiation existait là-bas. Donc, on s'est inspiré de ce qu'ils faisaient. On l'a transposé chez nous. On l'a travaillé. C'est devenu la comédiation. Et en 2001, les premiers dispositifs de médiation et de comédiation sont apparus à Apprenti d'Auteuil.
Émilie, je me tourne vers vous. On arrive presque à la fin de cette émission. Vous êtes éducatrice, je le rappelle, hein, dans un lycée du sud-ouest de la France. Et ça s'entend à votre accent, d'ailleurs, qui est très charmant. Je me permets de vous le dire. J'aime beaucoup les accents de Toulouse et de la région. Peut-être un conseil à transmettre à nos auditrices et nos auditeurs ce matin qui ont des enfants ou des petits-enfants qui connaissent une situation pas très agréable à l'école, qui peut-être sont harcelés, qui sont bouc émissaire, et je reprends cette expression qu'on a utilisée tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut leur transmettre comme conseil ?
La confiance et surtout le dialogue avec les équipes des établissements. Le travail de dialogue entre les familles et les établissements, c'est extrêmement important parce que ce lien de confiance est également ressenti par les élèves. Et plus on travaille ensemble, plus on les encadre correctement en prenant compte de leurs besoins spécifiques et mieux on agit pour eux. Donc vraiment, c'est un travail au quotidien de confiance, de solidarité. Et vraiment, le travail avec la famille, c'est vraiment 50% du travail pour qu'on réussisse à accompagner nos élèves en fonction de leurs besoins spécifiques à chacun. Vraiment. Et pour créer les dialogues.
Merci beaucoup, Émilie, d'avoir été avec nous depuis Radio Présence à Toulouse, d'ailleurs. Merci aux équipes qui vous accueillaient ce matin. Je rappelle que vous êtes éducatrice dans un lycée à Apprenti d'Auteuil du sud-ouest de la France. Merci, Laetitia Richer, également à vous, ancienne élève du lycée Saint-Michel à Prisiac, dans le Morbihan. Et merci, Johan Queno, directeur adjoint de ce lycée Saint-Michel à Prisiac. Concernant Apprenti d'Auteuil, je vous renvoie bien sûr sur le site internet où vous pouvez retrouver beaucoup plus d'informations et puis tous les dispositifs qui sont mis en place. Il y en a beaucoup. apprenti-auteuil.org. Merci à Hugo, Hugo, Catherine et Jeanne qui ont permis la production de cette émission. Merci à Jeanne, ma stagiaire, qui part aujourd'hui. Et je vous retrouve lundi dans Je pense donc j'agis.